Radio Okapi. Grande interview.
Bonjour et merci de vous savoir nombreux pour suivre votre magazine Grande Interview qui reçoit pour vous aujourd'hui le docteur Dirk Chaka. Il est médecin des professions, activiste de droits humains et membre du mouvement citoyen Lucha. Avec lui, dans cette émission, nous allons décortiquer la fascimétrie, ce baromètre mis en place par la Lucha pour évaluer les actions du chef de l'État. Et dans les cas précis, nous allons évaluer les 100 premiers jours du président Félix Tshisekedi à la tête de la RDC. Docteur Dirk Chaka, bonjour.
Bonjour Kelly.
Comment vous allez?
Je vais très bien, merci pour l'invitation.
Je vous en prie. Comment va Lucha?
Lucha se porte très bien. Ouais. Merci de nous recevoir. Et nous avons fêté il y a une semaine notre 7e anniversaire. Donc un moment de réflexion et surtout de réjouissance. Mais aussi le moment de nous rappeler de tous nos amis, nos camarades qui ont connu des moments difficiles. Et Luc Koulola particulièrement qui nous a quittés. Donc voilà, on se porte bien.
Alors, quel bilan vous dressez 7 ans après des actions de Lucha à travers la RDC?
7 ans après, beaucoup de leçons apprises, beaucoup de perspectives d'avenir. En termes de leçons apprises, nous avons tiré pleinement le sens de l'engagement des citoyens. Nous avons fait un parcours qui nous a permis de redécouvrir le pouvoir réel de chaque citoyen qu'il peut avoir et l'impact qu'il peut avoir sur la vie de la nation. En devenant un acteur majeur du changement. Et voilà, en 7 ans, nous avons suscité l'éveil de la jeunesse en particulier et des citoyens dans leur diversité pour qu'ils s'engagent, pas seulement comme politiciens, mais comme souverains primaires, comme citoyens, simplement, à prendre en main le destin de la RDC, de contribuer de manière positive à l'avènement d'un Congo nouveau.
Comment vous répondez à toutes ces personnes qui pensent que vous êtes à la solde des Occidentaux et que c'est eux qui vous financent?
Oui, nous comprenons que dans le contexte congolais, beaucoup de gens ont cessé de croire en eux-mêmes. Et il est très facile de vouloir diaboliser les gens en pensant que le simple fait d'être conscient de sa situation veut dire que quelqu'un vous a manipulé. Et c'est très regrettable. C'est d'autant plus injurieux envers les Congolais que de penser qu'un citoyen, pour se rendre compte qu'il n'a pas l'eau dans sa maison, ou qu'il n'a pas l'électricité, ou qu'il mérite mieux qu'un salaire de 30 000 francs, ou bien que les dirigeants sont en train de voler, ou bien qu'il doit revendiquer le respect de la loi fondamentale, la Constitution, qu'ils doivent être manipulés, ou que cela doit lui être dicté de l'étranger. Non, nous sommes une jeunesse qui est consciente, qui n'a pas besoin d'être ni motivée, ni manipulée, ni encouragée par l'extérieur pour pouvoir prendre en main son destin. Et donc cela est un raccourci. C'est parfois des justifications pour vouloir diaboliser, pour vouloir donner aux Congolais l'impression qu'ils ne peuvent pas faire des choses d'eux-mêmes, qu'ils ne peuvent pas avoir le courage de prendre leur destin en main. Et pour faire ce que nous faisons, nous n'avons pas besoin des milliards, nous n'avons pas besoin de millions, nous avons besoin des gens, des personnes qui comprennent, qui s'engagent. Et quand les personnes s'engagent, on n'a pas besoin de millions pour le faire, pour faire nos types de manifestations.
Pour faire vivre le mouvement, vous n'avez pas besoin de moyens financiers?
Non, pas du tout. Nous n'avons pas un siège, nous n'avons pas des infrastructures à entretenir. Nous avons des hommes avec qui parler, des hommes avec qui, chez qui il faut éveiller la conscience. Nous avons des actions aussi simples que nous menons, avec pancartes que nous éditons par nos mains, par de l'encre, par des papiers. Et donc toutes ces personnes qui sont impliquées et qui s'approprient cette lutte contribuent avec leurs moyens.
Est-ce qu'on peut dire que c'est du bénévolat ou du volontariat que vous faites?
Non, c'est un engagement, c'est au-delà du bénévolat, parce qu'au-delà de ça, il y a un sacrifice réel. Des personnes contribuent de leurs moyens, de peu de moyens qu'ils ont, et parfois même finissent par souffrir de cet engagement en étant emprisonnés. D'autres ont même perdu leurs biens, leur travail, et on a connu le cas de l'assassinat de Luc Koulola. Donc, au-delà de ce simple ce volontariat, il y a un engagement réel, une passion pour le Congo, un engagement à le faire vivre autrement, à travailler pour l'émergence d'un Congo nouveau, pour le bien de tout le monde. Et donc, il n'y a pas qu'un besoin d'occupation. Ce n'est pas une occupation, c'est vraiment une passion, un engagement, et qui ne nécessite pas qu'on ait des millions ou des financements extérieurs.
Comment adhérer à ce mouvement citoyen?
Voilà, tout simplement, on appelle par notre numéro de contact, on se présente, on dit la province dans laquelle on est, et nous vous contactons pour vous inviter à nos séances d'intégration qu'on appelle la luthiologie, à travers laquelle on parle aux citoyens qui viennent se joindre à nous, qu'est-ce qu'est la philosophie de la lucha, quels sont nos modes d'action, quels sont nos objectifs, parce que nous voulons des citoyens qui comprennent dans quoi ils s'engagent. Et donc, tout simplement à Goma, à Bukavu, dans toutes les provinces, il suffit d'appeler les numéros, ou alors nous joindre à travers nos canaux officiels sur Twitter, sur Facebook, nous écrire et nous vous contactons pour vous inviter à nos séances.
Docteur Dirk Chaka, je rappelle que vous êtes médecin de profession, défenseur des droits humains et membre de la Lucha. La Lucha, votre mouvement citoyen, a fait une évaluation des actions du chef de l'État pendant ces 100 premiers jours. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette évaluation?
Alors, cette évaluation qui entre dans le cadre de ce que nous appelons la fatimétrie. La fatimétrie a été un baromètre qui a été lancé au lendemain de l'investiture du chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, en vue d'évaluer son action, de faire correspondre les promesses qu'il a faites durant sa campagne, mais aussi après son investiture et les actions qu'il pose. Il ne s'agit pas tout simplement de faire une critique, mais il s'agit d'une interpellation, d'une manière citoyenne, participative, de contribuer à la gouvernance du pays et surtout de faire que nous proposions de manière continue nos remarques, nos suggestions pour que les Congolais puissent se retrouver dans l'actuelle gouvernance, parce qu'au fond, ce qui nous préoccupe, c'est que le Congo gagne, que les Congolais gagnent, que le Congo avance. Et donc, cette fatimétrie est un baromètre qui sera continu. Et la première livraison, le premier bulletin a été
durant
fait
durant tout le mandat du
chef de l'État, exactement. Et le premier bulletin a été livré au terme des 100 jours, qui lui-même s'était fixé comme étant un objectif périodique important, et au terme duquel nous avons donc évalué différents aspects de la vie nationale par rapport à ces promesses et aux réalisations qui ont été faites.
Quelle est la conclusion de cette évaluation avant d'entrer dans les détails?
Exactement. De manière brève, nous avons trouvé qu'il y avait des signaux encourageants, mais qu'il y avait encore des grands pas à faire. Pratiquement, de manière simple, en instaurant une gouvernance de rupture. Et cette gouvernance de rupture appelle à un certain nombre de mesures. Lutter contre la corruption, particulièrement par des actes, mais aussi lutter contre l'impunité, spécifiquement des anciens gouvernants, en émettant des audits, mais aussi en diligentant des enquêtes sur les violations des droits humains. De manière globale, donc, il y a des signes encourageants. Par exemple, l'ouverture de l'espace d'expression publique, mais aussi certains actes qui ont été posés pour alléger le déficit en infrastructure, qui pourra aider effectivement à alléger la vie sociale des Congolais. Et donc, nous pensons que il y a un bon début, mais qui a encore un long chemin et surtout un courage politique à avoir pour pouvoir instaurer une gouvernance de rupture.
Vous vous êtes basé sur les décisions ou les promesses faites par le chef de l'État pour pouvoir faire cette évaluation que vous appelez fatimétrie.
Exactement.
Et quelle est la méthodologie de travail que vous avez utilisée pour produire ce bulletin?
Alors, la méthodologie est tout simplement rétroactive. Il s'agit d'une documentation rétroactive en analysant les discours, les actions posées, les différentes promesses faites. Nous avons utilisé une méthode rétroactive, une analyse rétroactive, et nous avons aussi analysé naturellement les moyens de communication usuels, soit les réseaux sociaux ou alors les communications qui ont été faites par la présidence de la République, et le contenu de chaque déplacement, de chaque agenda du président de la République, et nous l'avons couplé, nous l'avons comparé aux différentes promesses qui ont été faites durant la campagne pour évaluer si les objectifs ont été atteints, si les promesses ont été tenues et qu'est-ce qui n'a pas été fait comme il se devait à notre goût, et proposer dans la suite des alternatives et ce qui devait être fait pour rencontrer les attentes de la population.
Quels sont les axes d'analyse de cette fatimétrie?
Alors, nous avons retenu 5 axes d'analyse de cette fatimétrie. Essentiellement, il s'agit des axes politiques, institutions et diplomatie. Le deuxième axe, la situation sociale. Le troisième axe, les droits humains, la justice et la lutte contre l'impunité. Le quatrième axe, c'est la sécurité. Et le cinquième axe, c'est l'économie et l'environnement.
Parlons de l'axe politique, institutions et diplomatie. Il y a des aspects positifs et des aspects négatifs que vous ressortez dans ces axes, je veux dire politique, institutions et diplomatique. Positif, vous parlez de la libération des prisonniers d'opinion et politique, ouverture progressive de l'espace politique avec la tenue des meetings de la MUCA et des diverses manifestations des travailleurs et des mouvements citoyens dans la lucha. Vous avez parlé de la relance de la diplomatie avec les autres pays et institutions régionales et internationales, la prise de la parole plus régulière à travers les médias, le limogeage du numéro 1, de l'ancien numéro 1 de l'ANR et le changement de certains responsables d'établissements publics. Dans les négatifs, vous parlez d'un deal opaque avec l'ancien président Joseph Kabila. Pourquoi vous parlez de deal opaque?
Oui, il s'agit de l'entente dont a parlé l'actuel chef de l'État entre lui et l'ancien président de la République, mais dont il n'a pas donné le contenu exact. Il s'agit d'une entente pour la passation pacifique du pouvoir, oui, mais quels en sont les termes? C'est pour ça que nous le traitons d'opaque. Nous ne savons pas le contenu. Quelle est sa portée exacte. Est-ce qu'elle est...
Vous pensez qu'il est important de donner le contenu de ce deal?
Oui, pour assurer la transparence. Parce que si ce deal fonde la gouvernance actuelle, nous devons savoir qu'est-ce qui lui est pas permis, qu'est-ce qui lui est permis, et est-ce que cela est permis par la loi? Parce que cela permettrait de renforcer non seulement la légitimité de son pouvoir, mais aussi renforcer la transparence et la redevabilité vis-à-vis des Congolais. Ça permettrait aux Congolais de savoir en quoi ils sont engagés et de leur permettre aussi de faire un accompagnement s'il le faut, ou alors une critique, qu'elle soit constructive et qui permette à l'ensemble du pays de ne pas être prisonnier d'un deal dont ils ne connaissent pas les termes.
Vous dénoncez aussi la composition d'un cabinet pléthorique, comme pour récompenser et non rechercher l'efficacité. Exact. Vous pensez que toutes ces personnes qui composent le cabinet du président de la République ne sont pas efficaces?
On n'a pas parlé de leur qualité, on a parlé de leur quantité. On pense que tout simplement, ils sont nombreux.
Oui, mais entre parenthèses, vous dites qu'on pourrait compenser et non pour rechercher l'efficacité.
Naturellement.
Ça veut dire qu'il a nommé des gens pour les récompenser.
Oui, nous pensons qu'il y a un nombre qui, parfois, ne permet pas de comprendre l'objectif final de certains conseillers. On voit par exemple que certains conseillers font une forme de redondance dans le cabinet avec des relations extérieures, avec des assistants privés qui jouent en même temps le rôle de relations extérieures. Il y a une certaine redondance dans les nominations qui nous pousse à croire qu'il y a eu besoin de pouvoir récompenser certaines personnes en les nommant. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, qu'il y ait dans les cabinets des personnes qui peuvent avoir le profil requis et dont la République a besoin et le chef de l'État lui-même a besoin pour exercer son mandat et atteindre ses objectifs. Mais seulement leur nombre. Vu que dans certains cabinets, il y a plusieurs membres et parfois aussi des certains conseillers qui semblent avoir des rôles redondants, c'est ce qui nous pousse à penser qu'il y a eu ce besoin d'agrandir le nombre.
L'absence d'un gouvernement, c'est parmi les aspects négatifs dans le domaine politique, institutionnel et diplomatique que vous reprochez, président Félix Tshisekedi.
Oui, nous pensons qu'il aurait été souhaitable d'avoir un gouvernement qui très vite se mette au travail et rende compte à la population de son action et mette en place surtout des réponses aux attentes de la population qui sont nombreuses. Il ne faut pas oublier que les 17 ans passés ont été catastrophiques et que l'avion RDC a atterri pratiquement en catastrophe avec une gouvernance et je peux dire médiocre. On ne peut pas refuser qu'on vient de loin en termes de violation des droits humains, on vient de loin en termes de respect des droits économiques et sociaux des Congolais. On sait nous tous qu'il y a beaucoup d'arriérés, on l'a vu d'ailleurs après l'investiture du chef de l'État, combien les gens ont manifesté autour de leurs revendications des salaires non payés. Et donc, il était utile pour nous de pouvoir très vite attaquer ces problèmes et donner des grands signaux qui permettraient aux Congolais de se remettre au travail et de croire en l'avenir.
Vous pensez que c'est de sa faute si le gouvernement tarde à être formé ?
Peut-être pas totalement de sa faute, mais nous tirons les conséquences, nous tirons l'alarme et nous évaluons tout simplement le fait que, au terme de ces 100 jours, nous n'avons pas encore un gouvernement formé, un nouveau gouvernement. Nous avons un ancien gouvernement qui, entre le fait d'assurer les affaires courantes et prendre certaines décisions qui, à mon sens, ne sont pas réellement courageuses, vu que le gouvernement est au terme de son mandat, et que le fait d'avoir un nouveau gouvernement pouvait impulser, que ce soit l'économie, la diplomatie et tous les aspects de la vie sociale du pays, et avoir en face de la population des personnes rédévables directement, vu que le nouveau régime a besoin d'avoir des personnes en qui il se reconnaît, et la population a besoin d'avoir des gouvernants à qui ils ont à demander des comptes.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Dr Dirk Chaka est l'invité de Grande Interview. Il est médecin des professions, activiste des droits humains et membre du mouvement citoyen Lucha. Avec lui, nous évaluons les actions des 100 premiers jours du président de la République, Félix Tshisekedi, depuis son investiture le 24 janvier 2019. Sur le plan social, vous avez applaudi ou vous appréciez le lancement de certains travaux à impact économique et social rapide, entre les routes, les ponts, mais aussi le contact direct avec le peuple, quoique tardif. Pourquoi vous ajoutez quoique tardif?
Quoique tardif, parce que ça n'a pas été la première initiative du chef de l'État. Naturellement, il a commencé par des tournées à l'extérieur. Il a fait quelques voyages à l'étranger, peut-être qui étaient urgents. On n'en a pas tous les contours, mais on sait qu'il y avait un besoin réel pour la population en termes des élections chaotiques de rencontrer son gouvernant, son nouveau président. Et donc, nous avons traité de tardif parce qu'il y a eu des cas urgents, comme à Yumbi, où il y a eu des graves violations de droits humains, des morts. Cette population aurait peut-être été réellement réconfortée de voir le chef de l'État. Il y a eu des cas à Beni, naturellement, où il avait promis de venir aussitôt après son investiture. Et donc, on salue le fait qu'en fin de compte, il a pu se rendre dans certains endroits. Mais nous sommes toujours en attente de sa visite à Yumbi et aussi dans certains coins de la République où les personnes ont été victimes des grandes violations de droits humains et qui ont besoin de réconfort et de sa présence, peut-être. Et c'est en ça que nous jugeons un peu tardif cette présence auprès des Congolais. Mais nous finissons par saluer cette présence parce qu'il a pu quand même aller dans certains coins du pays. Et nous notons cela comme un point aussi positif dans son action.
Vous nous reprochez, sur le plan social, la non-prise en charge effective des combattants qui rendent massivement les armes à l'Est au Kasaï avec le risque de remobilisation.
Exactement. En tant que citoyen, nous connaissons l'impact de l'abandon pratiquement des anciens miliciens qui rendent leurs armes. La plupart de fois, c'est des miliciens qui se remobilisent et qui réintègrent leur groupe ou alors deviennent des bandits de grand chemin. Et donc, il est important pour le gouvernement d'agir de manière prompte en les prenant en charge, en leur apprenant un métier, en les réintégrant, ou aussi, il est important de pouvoir en parallèle instaurer une justice pour ceux qui sont coupables des crimes contre la population. Et donc, pour nous, c'est une question primordiale de sécurité et pour tous les Congolais que ces différents miliciens qui rendent les armes soient encadrés, soient regroupés, qu'ils soient réorientés, réaffectés pour apprendre des métiers, pour être pris en charge et en même temps instaurer une justice pour ceux qui sont coupables de crimes.
Alors là, nous sommes en train de décortiquer la fachimétrie secteur par secteur. Dans les secteurs des droits humains, justice et la lutte contre l'impunité, on va parler des points positifs. C'est l'ouverture de l'espace politique, la tenue des manifestations à caractère citoyen et politique, la poursuite judiciaire contre les auteurs des tueries des étudiants à l'université de Lubumbashi. Vous estimez que c'est déjà un bon signe?
Exact. Mais par ailleurs, il y a aussi des signes négatifs. Pour ce qui est des signes positifs, c'est en fait cette volonté de vouloir assurer un espace d'expression et garantir la liberté de manifestation, tel que le chef de l'État lui-même l'avait promis, mais aussi il a tenu à le rappeler dans différents discours qu'il a tenus pour que les Congolais se sentent libres de s'exprimer, bien sûr, dans le respect de la loi. Et nous encourageons cela et pensons que c'est réellement un point positif qui encouragerait une participation des Congolais en exprimant leur point de vue sur la vie de la nation.
Docteur Dirk, dans cette évaluation, vous dénoncez l'impunité des militants UDPS responsables des cas et attaques au Kasaï et à Kinshasa lors de la saga des sénatoriales.
Ça veut dire tout simplement que lors de ces manifestations pour protester contre les élections des sénateurs, il y a eu des violations de la loi qui ont été perpétrées par les militants UDPS au Kasaï. Il y a eu des maisons qui ont été brûlées, il y a un policier qui a été assassiné, et ici à Kinshasa, on a vu quelques manifestations. Notre désir aurait été que des enquêtes soient faites et que les coupables aussi répondent. Et que pour nous, cela assurerait effectivement l'image d'un état de droit où il n'y a pas des personnes impunies. Et que ce soit des personnes proches du chef de l'État ou d'autres, lorsqu'elles sont coupables des faits avérés, qu'ils répondent devant la justice. Nous aurions bien voulu que cela soit fait pour assurer la transparence et l'efficacité de notre justice. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. On a aussi noté, en dépit de l'ouverture de l'espace, quelques répressions de manifestations de la lutte, en particulier à Beni, les militants ont été arrêtés, à Kananga aussi, il y a eu répression de leurs manifestations. Donc nous pensons que il y a encore quelques personnes qui n'ont pas compris. Et il est important pour le chef de l'État, en vue d'assurer l'efficacité de son action et aussi tenir parole, son engagement, il est important de faire comprendre à tous les niveaux les responsables qu'ils s'assurent, selon la loi, de respecter les citoyens, leur liberté de manifester, mais aussi aux citoyens de respecter la loi telle que cela est exigé avant de pouvoir manifester et revendiquer.
Alors, docteur Dirk Chaka, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le plan sécuritaire?
Alors, sur le plan sécuritaire, il y a eu des engagements. Le chef de l'État a pris des engagements de restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Les efforts ont été menés par lui diplomatiquement, mais aussi des mesures ont été prises, par exemple pour lutter contre l'insécurité à Lubumbashi. On a vu que dans la fuite de sa visite à Lubumbashi, il y a eu des mesures et certains bandits ont été arrêtés effectivement. Lors de son passage à Beni, il a promis que des mesures seront prises, mais aussi au Katanga, il a annoncé le redéploiement des troupes pour assurer une meilleure efficacité face à la riposte de l'armée vis-à-vis de questions sécuritaires. Mais ces mesures qui ont été prises ont assuré un satisfecit partiel, parce qu'à Beni, les massacres ont continué après cela, même si pas de grande ampleur, mais quand même, il y a eu des massacres qui ont été commis, que ce soit au Katanga, il y a encore de poches d'insécurité, et dans différents coins du pays, on entend dire, à Goma par exemple, il y a eu une grande insécurité qui a suivi l'investiture du chef de l'État. Certaines mesures ont été prises, mais il y a encore une certaine volatilité sur le plan sécuritaire, et nous encourageons le chef de l'État à pouvoir renforcer son discours, et surtout à mettre en œuvre ses promesses, ses engagements, qui ont été prises pour renforcer l'aspect sécuritaire. Nous pensons aussi que de l'autre côté, il est important pour assurer la sécurité d'assurer la rédévabilité des différents auteurs de crimes, parce qu'il n'y a pas sécurité, il n'y a pas justice, il n'y a pas sécurité sans justice. Il est important donc d'accompagner ces mesures de sécurité, de rédévabilité vis-à-vis des officiers qui assurent la sécurité et qui parfois peuvent être eux-mêmes coupables. Et donc il est important d'instituer une discipline, une rigueur sur le plan sécuritaire pour que les Congolais se sentent en sécurité dans notre pays.
Dans le secteur économique, il y a du positif et du négatif. Dans le négatif, vous dénoncez le dépassement budgétaire de la présidence. Par rapport à cette question, le porte-parole du chef de l'État a éclairé l'opinion pour dire qu'il n'y a pas de dépassement budgétaire.
Oui, nous venons de l'apprendre. Nous avons lu aussi le directeur du cabinet, Laurent Vital Kamerhe, qui a annoncé que il n'y a pas eu de dépassement. Mais c'est un débat, c'est un sujet de débat qui nous intéresse, parce que nous pensons que l'orthodoxie budgétaire doit être observée et que pour assurer un état de droit, effectivement, la chaîne de dépenses publiques, mais aussi les mesures de transparence doivent être observées à partir du sommet de l'État, afin de l'assurer aussi à la base. Et donc, pour nous, il était important de souligner cet aspect lié au dépassement budgétaire tel qu'il s'était annoncé. Nous pensons que c'est une bonne chose que le chef de l'État ait annoncé que son porte-parole va tenir un point de presse où il va éclairer tout le monde avec des chiffres, va montrer le niveau d'évolution et d'effectivité des travaux. C'est à ça que nous voulons arriver et ça fait partie des recommandations que nous avons faites. Et nous pensons que cela va renforcer la transparence et permettre effectivement que d'autres aussi qui ont précédé puissent rendre compte. Nous l'exigeons vraiment qu'il y ait audit au niveau des institutions, des gestions dans toutes les provinces, dans toutes les assemblées, pour que l'on sache à quoi a servi les moyens de l'État et comment cela a été affecté. Et que s'il y a des personnes qui sont coupables, qu'elles répondent devant la justice et que le peuple se sente remis dans ses droits en permettant de dénicher ceux qui gaspillent les fonds publics ou bien qui le dilapident à faire autre chose que ce à quoi il est destiné. Donc, sur le plan économique, nous pensons qu'il y a encore cette démarche à faire de transparence, un peu plus de transparence, et cela va nous conforter et nous permettre d'être de protagonistes sur cette question en ayant des éléments palpables sur lesquels on peut tabler et discuter de manière objective.
Lorsqu'on lit votre bulletin sur l'évaluation des 100 premiers jours de Félix Tshisekedi, on conclut qu'il y a beaucoup plus de points positifs que négatifs. Ça veut dire que le chef de l'État est sur la bonne voie?
Oui, il y a des signaux très positifs, mais nous pensons qu'il y a un besoin. Nous l'avons écrit noir sur blanc dans le document, que le chef de l'État doit prendre pour seul patron le peuple congolais, et que en vertu de cette confiance qu'il peut affirmer dans le peuple congolais, il ne peut pas se sentir prisonnier du deal qui pourrait le lier au régime Kabila. Le président Tshisekedi doit avoir le courage de penser que le peuple congolais et de croire au peuple congolais est le seul moyen par lequel il peut se défaire d'un deal qui le prendrait en otage et qui lui empêcherait surtout de passer à son action et d'instaurer une gouvernance de rupture que nous attendons tous. Le rupture par rapport aux anciennes habitudes, à la mauvaise gouvernance et tout le reste. Mais aussi, nous pensons en deuxième lieu qu'il est important d'instaurer une justice équitable, une justice sociale, une justice redistributive. Qu'il est aussi important d'accentuer son action sur le plan de la gouvernance, en instaurant une plus grande transparence à tous les niveaux, mais de l'autre côté, d'instaurer aussi un leadership qui assure à chaque Congolais un espace suffisant d'expression et de jouissance de ses droits. Et de manière plus profonde, nous pensons qu'il est important qu'il nous fasse rêver, qu'il parle de sa vision, qu'il convoque des états généraux et tout le reste. Nous allons peut-être parler des recommandations après, qui nous permettraient
de... Vous en
nous...
parlez déjà, c'est voilà. Parmi les propositions que vous faites au chef de l'État.
Exactement. Donc nous pensons qu'il doit s'inscrire dans une vision à moyen, à long terme, et dans lesquelles le peuple congolais peut s'inscrire. Et donc cela pourra être un signe majeur qui pourra permettre à chaque institution et à tous les Congolais de faire un suivi, de s'approprier son action et de savoir en quoi est-ce que cela, quels résultats auxquels nous pouvons nous attendre à moyen et à long terme.
Est-ce que Lucha compte rencontrer le chef de l'État pour échanger avec lui?
Lucha est un mouvement citoyen qui est ouvert et nous ne pouvons pas refuser une invitation si cela s'inscrit dans le cadre de renforcement de notre participation citoyenne. Nous avons eu à rencontrer l'ancien chef de l'État dans des situations assez calamiteuses de gestion que vous connaissez. Et s'il arrivait que le chef de l'État veuille discuter avec nous comme des citoyens pour parler de son action, nous évaluerons au moment venu quel peut être notre apport pour que le Congo gagne, parce que ce qui nous motive le plus, c'est le Congo qui doit gagner. Je voulais aussi revenir sur une question importante d'Ebola que nous avons soulevée par rapport à la riposte et à son efficacité. Ouais. Nous encourageons la mesure qui a été prise de la mise en place d'une équipe multisectorielle de riposte, okay. Et nous pensons que le chef de l'État doit accompagner et renforcer l'action de cette équipe pour faire face à l'insécurité qui mine la riposte contre Ebola. Ebola qui peut devenir un enjeu majeur de sécurité de Congolais et de la question sanitaire. Et nous espérons que cet accompagnement et ce renforcement dans l'action de lutte contre Ebola pourra permettre de faire face à cette épidémie qui est vraiment un grand défi pour les Congolais en général, mais aussi en particulier pour ceux qui sont concernés dans les zones où l'épidémie se vit déjà.
Docteur Dirk Chaka, c'était un plaisir de vous recevoir dans une grande interview. Peut-être un dernier mot avant de nous séparer.
Nous souhaitons tous que le Congo gagne, que les citoyens congolais soient fiers de leur pays, que nous retrouvions notre place dans le concert des nations, que chaque Congolais se sente un peu plus respecté dans sa dignité, que les attentes sociales soient rencontrées, qu'un leadership visionnaire soit aux commandes du pays, mais aussi que les citoyens soient plus exigeants, plus travailleurs et qu'ils travaillent pour le bien-être de nous tous, pour l'intérêt commun et pour la grandeur du Congo.
Merci.
Merci, Kelly.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Dr Dirk Chaka, médecin des professions, activiste des droits humains et membre du mouvement citoyen Lucha. Avec lui, nous avons évalué les 100 premiers jours du président de la République, Félix Tshisekedi, depuis son investiture le 24 janvier 2019. Merci à Mimi Kindou qui était à la prise des sons. Réalisation de l'émission, Michel Kifinda, coordination et présentation. Kelly Nkouté, bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.